J'ai vu les rassemblements sur les places. J'ai vu les premiers départs vers la forêt. La façon dont quelque chose basculait avec le plus grand calme. Chapeau d'ailleurs pour le calme. Pas évident quand on nous prend à ce point-là pour des idiots ou des esclaves. J'ai bien vu comment en face ils perdaient leurs moyens. Plus personne à diriger. J'ai trouvé cette idée géniale, moi qui n'ai pas beaucoup d'idées. Ne pas casser la machine, mais la laisser tourner à vide. Quitter le jeu. Bien vu. Un peuple entier qui glisse entre les doigts, qui se fond dans une forêt. Un peuple entier qui tourne le dos. J'ai eu envie d'être quelqu'un de ce peuple. J'ai eu envie de vous aimer. Et on peut pas s'asseoir un petit moment, se rouler dans la mousse.
Je m'appelle Mariette Navarro, j'ai 36 ans pour l'instant. Et j'écris des textes qui sont à la fois poétiques, théâtraux. Voilà, ça c'est une de mes activités. Sinon, je travaille comme dramaturge, c'est-à-dire plutôt conseillère littéraire, dans différents théâtres ou auprès de différentes compagnies. Donc je partage un peu ma vie en deux entre des déplacements, des voyages, des allers-retours dans les théâtres ou pour assister à des répétitions de spectacles. Et puis une activité plus solitaire d'écriture. Moi, j'ai besoin du soleil. Je suis quelqu'un qui a besoin de lumière et de soleil de façon très concrète. Hein, quand je travaille, j'ai besoin de m'installer vraiment en pleine lumière, sous la fenêtre. Et puis, je crois que je marche à l'énergie solaire quand même. Dès que le printemps arrive, je revis et je me charge. Alors on se trouve au rez-de-chaussée de la Maison de la Poésie de Rennes, qui est une belle maison un peu ancienne avec un grand jardin, et là on est dans la partie bibliothèque, donc on est entouré de livres de poésie.
Qu'est-ce que tu es venue faire ici à la Maison de la Poésie ?
Alors déjà je suis venue trouver du temps, du temps suivi, du temps qui ne soit pas interrompu par, comme je le disais, des déplacements, d'autres activités, d'autres obligations, du temps pour plonger un peu dans des textes et surtout commencer des choses, développer, chercher en fait. Et ce temps-là, il est très difficile à prendre dans la vie courante.
Combien de temps est-ce que tu es restée à la Maison de la Poésie ?
Alors je suis restée presque 2 mois, ce qui est un grand luxe. Il faut pouvoir trouver 2 mois, se rendre disponible, mais c'est un luxe parce que c'est un temps qui permet de ne pas être absolument dans l'efficacité, de pouvoir justement laisser les choses arriver, développer des choses en cours. Et j'ai travaillé sur principalement 2 textes. Le premier, ça serait peut-être un futur roman, en tout cas un récit, une forme un peu plus développée. Qui, pour l'instant, ça peut peut-être changer, mais ça s'appellera Ultramarin. Et c'est un récit qui se passe en mer, sur un cargo de marchandises. Puisqu'il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un voyage, c'était dans le cadre aussi d'une résidence d'écriture, mais une traversée de l'océan Atlantique sur un cargo de marchandises. Et à cette époque-là, j'ai pas écrit le texte, mais par contre, j'ai pris beaucoup de notes, de sensations, d'impressions. Et là, j'ai eu envie de reprendre ces notes et d'en faire non pas un documentaire, mais vraiment une fiction. Le point de départ de ce texte, c'est d'imaginer que tout un équipage d'un cargo de marchandises, donc qui est plutôt dans une routine d'aller-retour, de livraison de containers, s'arrête au milieu de l'Atlantique, en plein océan, et décide de plonger, de se jeter à l'eau, d'aller se baigner. Et à partir de là, toute une série de petits dérèglements va se mettre en place dans leur équipage. Le second serait plutôt une pièce de théâtre qui s'appelle « Zone à étendre ». Et cette fois, on n'est plus en mer, on est dans la forêt. J'ai quand même voyagé hein, dans ma petite chambre là-haut. Je me suis évadée entre la mer et la forêt. C'est un texte au départ... qui m'a été inspirée par mes relectures de certaines pièces de Shakespeare, notamment « Comme il vous plaira » ou « Le songe d'une nuit d'été », où il y a toute une partie qui peut se passer en forêt, un peu magique, ou alors, comme dans Comme il vous plaira, c'est toute une cour, le roi et sa cour qui s'exilent en forêt et qui doivent réinventer quelque chose. Donc j'ai trouvé en lisant ces pièces vraiment qu'il y avait quelque chose de... Moi, qui m'impressionnait au sens propre, quelque chose de très fort. Et en même temps, moi, j'ai toujours envie de parler de notre monde, là, de 2016-2017, dans lequel on vit. Donc, c'est aussi une fiction, mais qui peut avoir des liens avec peut-être certaines zones à défendre. En tout cas, j'imagine qu'une partie de la population d'une ville, dans cette fiction, décide de déserter la ville, de tourner le dos au pouvoir en place et d'aller réinventer une nouvelle façon de vivre, notamment dans la forêt.
Tu as publié ton premier livre en 2011 et depuis tu en as publié 4 autres. Donc ça fait 5 et 3 d'entre eux sont des pièces de théâtre. D'où est-ce que te vient cet attrait pour l'écriture de la scène ?
Alors c'est vraiment ma formation initiale en fait. Alors, j'ai toujours eu envie d'écrire... indifféremment des genres, sans me poser trop la question. Mais j'ai commencé le théâtre assez jeune, en fait, quand j'étais adolescente. Et très vite, en découvrant, grâce à une comédienne avec qui je faisais des ateliers, des textes contemporains de théâtre. Et ça a été vraiment très fondateur dans ma vie de me rendre compte que oui, ça existait, qu'il y avait des auteurs qui écrivaient au présent, qu'il y avait des pièces qui pouvaient parler directement de choses actuelles, et surtout se libérer d'une forme un peu canonique de la pièce de théâtre, comme on peut l'apprendre à l'école, avec ses scènes, ses actes, une forme de dialogue assez codifiée. Donc on trouve des pièces contemporaines qui sont encore dans ce modèle-là, mais on peut aussi s'en libérer, justement jouer avec les formes, jouer avec la parole. Et c'est en fait en étant apprentie comédienne quand j'étais plus jeune, hein, c'est pas devenu mon métier, mais ça me plaisait beaucoup, et en expérimentant physiquement en fait ces langues-là, que j'ai vraiment ressenti la nécessité d'écrire pour la scène, c'est-à-dire pour que les textes soient dits, pour qu'ils soient portés, pour qu'ils rencontrent des corps, en fait.
Quelle différence tu fais, si tu en fais une, entre la poésie, le travail d'écriture poétique et le travail d'écriture théâtrale ?
Alors, c'est vrai que la différence est un peu ténue, parce que, finalement, je pourrais dire la même chose de la poésie que ce que je viens de dire du théâtre. C'est-à-dire aussi, pour moi, il y a une forme, quand même, d'oralité nécessaire. Et dans les deux cas, j'ai besoin de passer quand même par l'oreille, par le rythme, pour savoir si ce que j'écris est juste. Bien sûr, je me pose la question de ce que je raconte, mais en dernier recours, ça va être, je peux changer un mot, même quitte à changer des fois le sens de la phrase, pour avoir la bonne musique dans l'oreille. Donc, c'est assez proche, je trouve, en énergie. Après, peut-être que dans l'écriture théâtrale, je suis un peu plus vigilante, en tout cas, j'essaye de l'être au futur spectacle, donc aussi à donner des éléments de construction, d'évolution, de dramaturgie, ou en poésie, je peux être sur du matériau un peu plus brut, ou sur des choses qui ne sont pas forcément représentables, ou qui tiennent peut-être moins sur la longueur, sur une scène de théâtre.
Pas de lune. Quelque chose rampe. Quelque chose grouille. Pour quelque chose, c'est l'heure de sortir de chez soi, c'est l'heure de vivre. Une chose inconnue déploie sa logique dans l'obscurité. Des branches s'agitent, du bois casse. On dirait que des informations sont chuchotées entre les feuilles. C'est un grand affairement. Un grand rassemblement d'histoires minuscules. C'est un bourdonnement jamais entrecoupé par aucun silence. Quand les bêtes suspendent leur grattement, ce sont les arbres qui s'y mettent. Et puis ça grésille jusqu'à l'intérieur de mon oreille. Il y aurait de quoi devenir folle si ce n'était pas si doux. Une nappe régulière et profonde. De temps en temps, ce sont des rires ou des ululements, Je n'ai pas le temps de me demander ce que c'est, de nouveau, ça grésille.
Alors, j'étais assistée à ta carte blanche, puisqu'à la fin de ta résidence, tu avais droit à une carte blanche en public. Donc, lors de cette carte blanche-là, tu as invité Claire Diterzi pour présenter des résonances entre vos deux travaux en cours. Et le texte sur lequel tu as basé cette carte blanche-là était « Zone à défendre ». J'ai trouvé que c'était un texte très organique. Ça m'a évoqué... Le mot de révolution du vivant. Et on retrouve ça, je trouve, dans tes autres textes, dans ton travail, qu'il soit théâtral ou plus de roman ou de poésie. Quelle est cette importance-là pour toi du corps et de la vie ?
Pour moi, c'est vraiment le filtre par lequel je reçois le monde, en fait, et par lequel je me sens capable de l'exprimer. J'ai très peur des fois quand j'écris, parce qu'il y a cette possibilité-là quand on est dans un travail poétique ou de recherche de forme. J'ai peur d'une abstraction. C'est-à-dire que à la fois je suis très attirée par des idées abstraites et par des choses, m'attaquer à des choses aussi qui me paraissent un peu trop grandes pour moi, justement la question de la révolution, ou, voilà, des notions comme ça philosophiques. Et comme je suis ni sociologue, ni philosophe, ni théoricienne de quoi que ce soit, ma façon à moi d'attraper la pensée, c'est de la remouliner, je dis ça des fois comme ça, mais de la repasser par le corps, en fait, par la sensation physique. Par exemple, quelque chose qui peut revenir dans mes textes, c'est la violence du langage un peu... libéral dans lequel on est baigné, bon, bah, cette violence-là, je crois qu'elle elle exerce vraiment quelque chose sur les corps des individus, quoi. Elle violente, elle ratatine, elle rapetisse, elle empêche de respirer. Enfin, je crois que c'est vraiment concret, en fait. Et donc, dans l'écriture, j'essaye de rendre ça partageable, parce que je crois qu'aussi que la dimension d'expérience physique, c'est ce qui nous relie tous, quel que soit notre bagage aussi théorique, culturel, aux uns et aux autres. Voilà, une violence qui est exercée, on sait tous ce que ça fait en termes de ressenti. Je me rends compte que dans les différents textes, le corps dont je parle, c'est souvent le corps des personnes peut-être les plus fragiles ou les plus vulnérables ou des petits, ou des, entre guillemets, des perdants, si jamais on accepte une espèce d'opposition à laquelle je ne crois pas vraiment, mais entre les gagnants, les perdants, dans un système ultra-libéral où il faudrait tout le temps être parmi les premiers. Bon, bah, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à voir ce qui se passe dans le corps des derniers que des premiers, quoi. Donc, je pense que... l'opposition, elle est un petit peu à cet endroit-là, c'est-à-dire entre une hypersensibilité de certains individus et d'un autre côté une hyperviolence ou une force, alors qui est la force d'un système idéologique en fait en place. Justement, qui voudrait qu'il y ait les gagnants et les perdants, qui voudrait que l'être humain doive être poussé dans ses derniers retranchements et absolument être efficace et produire quelque chose et être du côté de la perfection et de quelque chose de tout le temps positif. Donc ça peut se trouver dans... je crois beaucoup dans le langage en fait qui nous entoure, hein, que ce soit dans la publicité, dans les discours politiques. Enfin, je pense qu'on peut vraiment le décrypter partout, y compris, je pense, dans des choses qu'on intériorise chacun, dans son travail, dans la façon dont on mène sa vie, dont on parle de soi, on se met en valeur, on essaye de toujours montrer une image positive. Voilà, c'est un petit peu ces deux aspects-là qui, je pense, cohabitent en chacun de nous, dans la mesure où on est pris dans ce système-là. Voilà, ce qu'il faudrait montrer de force, et puis, au fond, le doute et la vulnérabilité.
Je rêvais de ces chemins clairs, de ce vert tendre, des ronces chargées de mûres comme on en a trouvé en entrant dans le bois. J'en rêvais des journées entières, les yeux ouverts sur mon ordinateur. Ce n'était qu'un goût esthétique auquel répondait le choix d'un fond d'écran. Ce n'était qu'une envie de vacances. Je ne pouvais pas abandonner mes responsabilités pour aller cueillir des groseilles. Ce dossier pour la semaine prochaine, ce rendez-vous pour un avancement, cette vérification des comptes, cette centaine de messages qui attendaient ma réponse type, mes formules de politesse, je ne pouvais pas les mettre sur le même plan que mes pieds nus dans la rosée ou mes doigts dans les myrtilles. Qui plus est, j'habitais une ville très bien où l'on trouvait partout des substituts de nature sous forme de magasins bio. Je touchais pour ma présence un salaire et une certaine reconnaissance. J'avais choisi moi-même la filière et même la rémunération. J'avais plusieurs employés sous ma responsabilité. Je n'avais jamais à me plaindre. Je ne pouvais pas déserter. Je ne pouvais pas disparaître dans la brèche d'un mur. Mais ce que les gens disent qu'on ne peut pas le faire, en le faisant, on se rend compte qu'on peut le faire très bien. On désapprend et on apprend exactement en même temps.
Dans tes textes, il y a des brèches, des interstices qui laissent passer la lumière et la vie dans le brouillard. Où est-ce que toi, en tant qu'autrice, en tant qu'artiste, tu trouves ces brèches pour écrire ?
Je les trouve déjà, comme je disais au début, dans le temps auquel parfois je m'autorise, par exemple des temps de résidence, des temps de silence, des temps de coupure, j'y arrive pas tout à fait, mais c'est-à-dire aussi comment on peut couper les sollicitations, se retrouver un peu face à soi. Ça, c'est vraiment pour un aspect très intime, pour pouvoir trouver des ressources d'écriture. Mais sinon, de façon plus générale, c'est souvent par des rencontres artistiques que cette lumière-là peut arriver dans des moments plus pessimistes. Et c'est pour ça que je crois que je continue à faire du théâtre. Quel que soit le projet, il y a toujours une forme d'utopie qui est de... Même si on monte un texte qui a rien de politique, qui a tout ce qui est de plus classique, c'est pour moi, ça me paraît toujours fou que des êtres humains se réunissent, travaillent pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, à extraire du sens d'un texte, à monter un spectacle pour le partager ensuite avec d'autres êtres humains. Enfin, je trouve que c'est un endroit, moi, qui me fascine. Je trouve ça tellement... rare en fait dans le monde dans lequel on vit, même juste d'avoir des personnes qui sont réunies autour d'une table avec juste pour faire une lecture de quelque chose ou pour échanger des idées. Voilà, ça c'est des moments où je retrouve un peu de foi dans l'être humain, on va dire.
Si tu devais dire 3 mots ou groupe de mots pour qualifier ton métier d'autrice, lesquels est-ce que tu choisirais et pourquoi ?
Le premier, ce serait liberté, je pense, parce que quand même je me rends compte de la chance incroyable que j'ai de pouvoir officiellement vraiment faire ce métier-là, prendre du temps pour écrire de façon reconnue par la société en fait, et finalement sans qu'on me demande de compte sur ce que j'écris. Donc il y a une grande liberté, puis c'est un espace pour s'échapper, je le disais tout à l'heure, pouvoir voyager tout en restant assise à mon bureau. Deuxième mot, ce serait peut-être bataille, mais bataille intérieure, parce que en fait, cette liberté-là, la première entrave, c'est moi-même. C'est très très difficile en fait de pas s'auto-censurer, de pas se limiter, de pas s'auto-formater. Dans le texte « Zone à étendre » dont j'ai lu des extraits hier, à un moment j'écris « Prière de ne pas s'éteindre soi-même », mais je crois que ça renvoie vraiment à cette bataille-là, ne pas assagir ce qu'on pourrait dire. Des fois, c'est involontaire, hein, c'est inconscient, c'est peut-être pour que le texte circule plus facilement ou qu'il soit mis en scène plus rapidement ou qu'il parle à plus de monde. Et c'est très intégré, donc voilà, il y a une bataille permanente pour dire, attends, là, non, je pourrais être plus, plus frontale, plus mordante, et tant pis si ça déplaît. Mm. Peut-être, bon, c'est un peu dans le prolongement de bataille, mais c'est peut-être le mot doute aussi. C'est-à-dire comment, moi, quand j'écris, j'ai toujours besoin quand même d'être entourée de lecteurs bienveillants dans mon entourage proche, de personnes à qui je peux très vite confier des premières ébauches, parce que sinon c'est, j'ai l'impression de travailler avec du sable, quoi. Il y a quelque chose où je peux être très contente de moi parce que pendant 2 jours j'ai écrit plein de pages et que j'ai eu l'impression d'être emportée dans quelque chose, et puis selon l'état d'esprit dans lequel je relis ce que j'ai fait quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, je peux avoir l'impression vraiment que j'ai construit avec de l'air, avec du vent, et qu'il n'y a rien du tout. Donc j'ai besoin d'avoir vraiment des personnes de confiance qui peuvent me dire, voilà, aussi, bah non, là t'es allé un peu dans tes facilités, t'as raison, c'est peut-être pas ce que t'as fait de mieux. Ou au contraire, me dire, si, là, t'y vas, tu poses pas de questions, prends cette direction-là et fonce. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très instable, en fait, dans l'écriture. Moi, il y a presque que quand le texte est édité que je peux me dire, ça y est, bon, ça, c'est... Quelqu'un d'autre a endossé la responsabilité avec moi de ce texte-là, et j'ai pas à me poser la question à chaque mot de sa validité. Parce que sinon, c'est vraiment ça. Et c'est épuisant. Parce que je suis capable de tout remettre en question, des fois, des mois, voire des années de travail, en me disant, mais non, en fait, c'est vain ou c'est vide.
À chaque fois que je parle, on me dit que je ne dois rien dire si je ne sais pas, si je ne suis pas une spécialiste, qu'on ne peut pas parler trop vite, qu'on ne peut pas tout remettre en question, que c'est faire le jeu des haineux, ou que c'est faire le jeu des violents, ou le jeu de ceux qui ont tort de toute façon, que c'est trop naïf, que c'est impossible, que c'est con, qu'on ne comprend rien, ou parle plus fort qu'on n'entend rien ce que tu dis, ou étaye ta pensée, ou arrête de répéter tout ce que t'as entendu, c'est faux, c'est ridicule, c'est de la propagande, c'est bien gentil mais bon, on dirait que tu te rends pas bien compte, on dirait que tu sais pas dans quel monde on vit, hein. Ma petite, redescends un peu, sors de ta bulle, non mais tu crois vraiment que c'est la vie ça? Que c'est tout remettre sans arrêt en question. C'est facile pour toi. C'est facile d'avoir des principes. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui ont des responsabilités. Il y en a qui savent de quoi ils parlent. Eh bien, je crois qu'on devrait reprendre le contrôle de notre imaginaire et des récits qu'on écrit pour nous.
Ces textes reprennent beaucoup aussi les paroles des autres, ceux qui critiquent, qui jugent, qui ramènent toujours ceux qui veulent rêver à une réalité matérielle, est posée comme la seule réalité, en fait, possible. Comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu réagis à ces paroles, à ces attitudes, quand tu y es confrontée?
Alors, heureusement, en fait, j'y suis peu confrontée frontalement. Ça m'est peu arrivé que des personnes me disent que mon travail ne sert absolument à rien, parce qu'on évolue dans des cercles où on est quand même protégé, et puis il y a une officialité un peu de mon métier qui fait que ça va, mais c'est quelque chose qui peut me mettre très en colère dans les mentalités en général, et quand je me rends compte de la considération et de la place qui est laissée à la pensée, en fait. C'est pas seulement l'activité artistique, parce que je peux entendre que certaines personnes soient moins sensibles que d'autres à l'écriture, à la lecture, au théâtre, d'autres le seront plus pour la musique. Enfin voilà, ça, je pourrais jamais en vouloir à personne de pas être sensible à la poésie ni au théâtre. Par contre, vraiment quelque chose qui me met très en colère, c'est la paresse de penser. qu'on trouve partout, et y compris dans les milieux culturels. Hein, c'est pas... c'est pas une opposition entre ceux qui feraient de la culture et les autres. Non, non, c'est bien bien partagé.
En tout cas, c'est pas pour rien que tout s'est toujours passé dans cette forêt à travers l'histoire.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette forêt ?
Il y a eu des exils, des légendes. Un roi a amené toute sa cour d'un coup et s'est fait une vie mondaine au milieu des animaux. Et c'était pas plus violent que les dorures des salons. Un brigand ou deux se sont fait une vie sauvage. Pour s'amuser, ils terrifiaient les promeneurs au détour d'un bosquet. Des amants se sont perdus, retrouvés, reperdus. Certains sont devenus fous, d'autres ont fait semblant de l'être. Ça durait le temps d'un philtre d'amour, le temps de vivre de baies et d'eau vraiment très très fraîches. Dans une guerre qui a duré 100 ans, chaque arbre a été déraciné et toujours il a repoussé encore plus beau, encore plus large. Aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on sent quand on arrive.
Dans le texte en cours que tu as présenté lors de ta carte blanche, donc qui s'appelle « Zone à étendre », bien sûr, le titre, tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher de penser aux zones à défendre et à la convergence des luttes, aux luttes, aux questionnements qui sont soulevés dans ces zones-là, qui sont discutés, qui sont débattus dans ces zones-là et aussi autour de ces zones-là. Comment est-ce que toi, tu as inscrit ton travail d'écriture par rapport à ces mouvements-là ? Est-ce que tu l'as inscrit dans ces mouvements ? Comment tu te situes ?
C'est sûr que la référence est assez directe et assumée. Là, aux zones à défendre. Pour l'anecdote, j'ai commencé ce texte en mars dans un autre lieu de résidence à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Enfin, j'ai commencé début mars et fin mars, il y avait le mouvement Nuit debout qui débutait à Paris et puis après un peu partout en France. Et j'ai été un peu prise de court par l'actualité. J'ai laissé tomber mon texte tout ce temps-là parce que je ne savais pas comment traiter au présent avec quelque chose qui était en train de se passer. Donc j'ai à la fois besoin d'être en prise avec ce que je ressens d'un mouvement qui est dans l'air, d'interrogation, d'un ras-le-bol aussi général à différentes échelles. Et en même temps, j'ai toujours besoin de le prendre un peu de biais. C'est pour ça, là, dans ma zone à étendre, c'est pas directement... Ils sont pas en train de lutter contre la construction d'un aéroport, par exemple, mais c'est une autre fable, un peu plus parabolique, peut-être, l'idée que de toute une population qui déserte la ville ou le pays dans lequel elle habite. Parce que je peux pas non plus trop coller... à une actualité, je ne saurais pas comment faire, je ne saurais pas comment l'écrire, et puis j'aurais surtout peur que ça n'ait qu'une valeur au moment présent et qu'une valeur de témoignage ou de document, alors que c'est vrai que j'ai envie, en passant par des textes qui mêlent le politique et le poétique, d'essayer de voir un peu plus large et d'être plutôt dans l'archétype de ces mouvements-là. C'est pareil pour Nous les Vagues, où... En fait, il a été édité au moment des Printemps arabes, mais je l'avais commencé avant, presque un an ou deux avant, donc c'était plutôt, pour moi, lié au mouvement des indignés qui commençait à se mettre en place, mais c'était des frémissements à ce moment-là, et l'enjeu de ce texte, c'était plutôt de saisir les frémissements et de saisir, en fait, à l'intérieur de moi-même aussi, ce désir-là, qu'il se passe quelque chose, qu'on s'organise, qu'on fasse quelque chose, et après, l'écriture du texte me sert à l'interroger et à m'interroger moi-même sur, d'accord, t'as envie de ça, mais comment ça se passe concrètement, qu'est-ce que tu proposes, comment on fait, et j'ai toujours pas de réponse, sinon ça je peux continuer à écrire.